Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Patricia.
Bonsoir Caroline, enchantée.
Ben moi aussi, je suis ravie de parler avec vous. Vous voulez me parler, je crois, des relations avec votre fille.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que avant d'avoir ma fille en 1998,
oui,
j'ai eu un premier fils en 1994.
D'accord.
Et ce petit bébé est mort d'une mort subite du nourrisson.
Oh, c'est terrible.
Donc,
oui.
C'était très grave.
Il avait quel âge, votre...
Il avait 2 mois et demi.
Oui.
Donc, à la suite de ça, j'ai fait une grave dépression.
Mais oui.
Une descente aux enfers.
Oui.
Et puis, je me suis fait soigner. Et j'ai réussi à tomber enceinte en 1998. J'ai mis au monde une petite fille.
Oui.
Qui a maintenant 22 ans.
D'accord.
Et qui a eu une enfance tout à fait heureuse. Mais elle me dit que vers les années 2010, je me suis, j'étais là de corps, mais je n'étais pas là d'esprit, parce que j'ai eu à m'occuper de mon père vers les années 2010,
oui,
qui était atteint de la maladie d'Alzheimer.
Ah oui, oui.
Donc, ça a été très lourd en ce qui le concerne. Et ma mère est tombée malade d'un cancer du sein.
Dans la foulée, enfin, un peu...
Dans la foulée.
De façon... Oh là là, oui, c'est terrible pour...
Oui, donc, j'avoue que c'était difficile à supporter psychologiquement.
Oui.
Et j'ai connu un passage à vide.
Ben, c'est normal. Comment pourrait-il en être autrement?
Mais
c'est, vous m'en parlez à travers le regard de votre fille?
Bah, c'est-à-dire que quand il nous arrive d'avoir des discussions parfois un peu houleuses,
oui,
elle me dit, mais maman, dans les années 2010, tu n'étais plus là de corps ni d'esprit. Et apparemment, elle en a souffert. Son père était vivant. Ah oui, je vous ai pas dit. Son père était vivant et il nous a quittés en 2018 d'un cancer de la moelle osseuse.
Oui.
Donc,
c'est terrible.
J'essaie de tenir.
Il a perdu son père.
Oui.
En 2018. Et vous, vos parents?
Mes parents, alors mon père, je l'ai perdu en 2012 et ma mère en 2014.
Ah oui, vous
donc
avez été très très éprouvée là. Ça a été des années terribles pour vous.
Oui.
C'est pas étonnant, oui, que vous soyez
donc,
absente.
Donc j'ai une santé psychologique qui fait des vagues.
Oui.
En général, ça va bien, mais j'ai des périodes où je ne tiens pas vraiment le coup, je survis.
Vous êtes aidée un petit peu?
Oui.
De quelle façon alors?
Au décès de mon mari, j'ai été aidée par un psychiatre qui m'a donné des médicaments et qui m'a fait suivre une psychothérapie.
Oui, que vous continuez?
Et donc je me demandais...
Oui.
Si dans tout ça, ça avait des répercussions sur l'évolution psychologique de ma fille. Comment dire, est-ce que mes périodes de faiblesse peuvent s'apparenter vis-à-vis d'elle à de la maltraitance?
Oh non! Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi pensez-vous cela?
Entre guillemets, je ne l'ai pas soutenue moralement quand j'éprouvais des difficultés à vivre.
Mais vous n'étiez pas en état de le faire.
Non.
Oui, quand elle vous parle un peu d'absence à vous-même,
oui, c'est ça.
C'est le
elle
propre de la dépression.
tout à fait. Elle me dit que son père, heureusement qu'il était là,
oui,
pour rattraper un, oui, peu le cours de son éducation.
Oui. Vous vous trouvez démunie quand elle vous parle de cela, ça...
Ben, j'ai l'impression de l'avoir fait souffrir.
Oui,
et,
oui mais pas volontairement.
Je ne l'ai pas fait exprès.
Mais voilà. C'est, oui, c'est-à-dire, la question même que vous me posez témoigne de votre sentiment de culpabilité.
Oui.
Pour me demander si, alors que dans ces périodes que vous qualifiez de faiblesse, où en fait oui, vous étiez dans un chagrin immense, et en plein deuil, évidemment absorbé dans vos pensées, et donc fatalement moins disponible pour votre,
oui,
fille et pour,
oui,
quiconque,
c'est ça,
d'ailleurs.
Oui.
Mais on ne peut absolument pas qualifier cela de maltraitance.
Ah, ça me rassure.
Non. Je ne vais... Pour autant, évidemment, il ne s'agit pas de nier l'impact que cela a sur les enfants.
Ben,
lorsqu'un parent traverse un deuil, est en dépression, évidemment, ça a des retentissements, parce que quand,
oui,
on est dans cet état-là, on est un peu, on a une présence un peu fantomatique, c'est-à-dire qu'on fait les, oui, choses, mais presque de façon automatique.
C'est ça.
Donc on peut arriver, et encore, parfois dans des dépressions très sévères, il n'est plus possible de fonctionner au quotidien. Hein. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à quitter leur lit, qui n'arrivent même plus à faire leur toilette, même à s'alimenter. Il y a des formes de dépression, heureusement, moins profondes, mais pour autant qui causent une souffrance morale terrible, où vous avez pu continuer à fonctionner, mais vous étiez envahi par la tristesse.
Oui.
Ce que votre fille qualifie par cette absence, au fond.
C'est, oui, ça.
Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y avait pas de, d'intention de votre part de lui faire du mal.
Oui.
C'est vous qui étiez très mal à ce moment-là. Oui.
C'est ça, mais...
Vous n'aviez pas le... Malheureusement, vous n'avez pas... choisi d'être dans cet état-là. Pas plus,
non,
que vous avez subi. Vous avez subi, d'abord, vous avez commencé en me parlant dans ces épreuves qui ont jalonné votre vie de la perte de votre bébé, de ce petit garçon
oui,
décédé.
Là, c'était l'enfer.
Bah oui. Bien sûr que c'est l'enfer. Bien sûr.
Oui.
Il y a la mort subite du nouveau-né plonge les parents dans un chagrin infini qu'on ne peut même pas imaginer. Et pour les mamans qui viennent de mettre au monde ce bébé et qui leur est arraché comme ça, parce que,
oui,
comme le nom l'indique, c'est subit. Et parfois, on ne trouve pas de cause à cela. Et c'est épouvantable. Un moment où on est en pleine fusion avec son bébé, ce bébé qui est arraché, et la mort qui vient, qui surgit là où on est dans la vie avec un nouveau-né, en principe.
Donc, j'ai eu l'impression qu'il avait été assassiné tellement,
oui,
c'était brutal.
Oui, c'est de cet ordre-là. Enfin, il y a une,
oui,
sidération, il y a quelque chose de viscéral même, enfin.
Oui.
D'une détresse psychologique et physique aussi, quand je parle d'arrachement.
Oui, on m'a arraché le cœur.
Oui, oui. Mais et d'ailleurs, vous avez attendu, ce qui souvent, enfin, après chacun fait comme il peut, mais on conseille, hein, quand on le peut, et on essaie, les psys encouragent, enfin, les parents à consulter, à se faire aider. Et démarrer une nouvelle grossesse aussitôt après n'est pas forcément idéal, parce que on ne remplace pas un enfant.
Non.
Et une grossesse qui surgit peu de temps après, alors que finalement on est encore en plein deuil de ce bébé, c'est quelque chose d'assez éprouvant, d'être à la fois de son sentiment de porter une vie qui démarre, mais d'être bouleversé de chagrin avec ce bébé qu'on a perdu. Donc vous, vous avez attendu 4 ans.
Oui. Excusez-moi.
Vous n'étiez
je n'étais pas capable physiquement et psychologiquement oui. d'être enceinte.
Bien sûr, bien sûr.
Juste après la mort subite de mon bébé.
Oui. Elle est au courant d'ailleurs de cette
oui.
histoire, votre fille.
Depuis
oui.
toute petite.
Oui.
Elle et... le sait.
Oui, parce que cet enfant, il a existé, même si sa vie a été malheureusement très brève. Il a une place dans vos vies et dans votre cœur, évidemment. Et ça aurait été un grand frère. C'est-à-dire que...
Tout à fait.
Bon, malheureusement, par rapport à la maladie aussi qui a fini par emporter vos parents, bon, à quelques années d'intervalle comme ça entre une maladie telle que l'Alzheimer pour votre père qui est une maladie terrible parce que pour les proches cet effacement au fond de
c'est ça, oui.
des souvenirs et de il y a aussi un auditeur en parlait
le même homme ben voilà. en l'espace de quelques mois
oui oui, oui.
de quelques petites années
oui, oui. Puis votre maman, bon, qui elle, de son côté, on lui trouve, on lui diagnostique un cancer du sein. Enfin,
c'est ça.
Oui, tout ça est bien lourd et forcément, ça, c'est venu un peu contaminer votre vie au quotidien. Et même si ce n'est pas le ce n'est pas l'amour qui était en question, mais c'est votre fille le dit d'ailleurs, c'est la question de la présence.
C'est
C'est-à-dire que vous étiez là et pas là, au fond. Là physiquement, bien sûr.
Et j'ai tendance à me reprocher.
Oui, ça c'est... C'est dur, je trouve. Enfin, c'est... C'est dommage, c'est dommage parce que déjà, vous avez beaucoup souffert, vous souffrez encore, et c'est dommage de vous rajouter de la souffrance en vous reprochant quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Vous auriez eu une maladie physique, une maladie qui touche le corps. Est-ce que vous en seriez voulu de cette façon-là ?
Non.
Ben non, vous voyez, le non, il est net et catégorique. Ben, la dépression, c'est une maladie aussi. Ça touche le psychisme, ça touche l'âme, mais vous n'en êtes pas plus responsable que si vous aviez eu une maladie physique. Vous n'avez pas choisi.
Non.
Et vous avez fait ce que vous avez pu, et du mieux que vous avez pu. Quand vous me dites, parce que vous me parlez de votre fille qui vous en parle lors de discussions
oui.
houleuses. Qu'est-ce qui déclenche
que...
Oui, pardon.
Pardon. C'est-à-dire que elle a tendance à se montrer un peu écorchée vive.
Oui.
Quand je lui parle ou quand nous échangeons et parfois elle me parle de cette période où j'étais absente pour elle. Pour son éducation. Et je pense que j'ai agi de façon un petit peu négative pour son évolution psychologique et pour qu'elle puisse devenir adulte.
Alors ça, on ne peut pas pour autant, s'engager comme vous le faites sur son avenir, parce que je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, votre fille. Puis quand même, il y a vous qui étiez en plein deuil de vos parents,
oui.
mais il y a aussi un autre événement majeur et qui a aussi des conséquences. Évidemment,
elle
c'est
a perdu
le...
son papa bah, qu'elle adorait.
Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, vous me dites ces années-là, c'était les années 2010, 2012, et son père est décédé
en
2018.
En 2018.
Oui, donc vous, c'est-à-dire que lorsque vous étiez si mal, eh bien, oui, heureusement que votre mari était là à ce moment-là et pouvait être davantage présent. pour votre fille. Il vous soutenait et en même temps, il avait la force que vous n'aviez pas à ce moment-là. Voilà. Hein, c'était voilà, déjà difficile de vous occuper de vous. Donc, vous occuper d'une enfant était évidemment bien compliqué. Mais bien sûr que votre fille, il y a dans son histoire comme ça des moments de cassure et pas n'importe lesquels. Et le décès de son père, elle n'en parle pas de...
Oh, si, ça lui arrive d'en parler, mais elle a beaucoup souffert quand son père est décédé.
Mais oui.
Elle aussi, elle a connu, une immense tristesse.
Bah oui. Oui.
Et elle a même consulté une psychothérapeute oui. la première année.
Oui, elle a bien fait. Comment va-t-elle aujourd'hui, votre fille ? Aujourd'hui, elle a 22 ans, donc...
Ça va nettement mieux. Mais je la sens parfois un peu nerveuse, un peu irritable. Je la sens parfois inquiète à mon sujet et je voilà. ne veux surtout pas l'inquiéter.
Oui, alors ça c'est important que vous m'en parliez de cette inquiétude. Parce que il est vrai que lorsqu'un enfant perd un parent, c'est évidemment un événement majeur dans... qui va le marquer pour le reste de sa vie. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout le reste de sa vie il va être consumé par la douleur. Heureusement, on peut surmonter une telle épreuve. Mais il en résulte aussi que déjà, il y a la perte de ce parent, et forcément, ça affecte le parent qui reste. Parce que perdre son conjoint est un drame. Donc, évidemment, pendant un temps, le parent aussi qui reste n'est plus le même. Et l'enfant, et quel que soit son âge, alors les effets ne sont pas les mêmes selon l'âge de l'enfant, mais vous me parlez de cette inquiétude, c'est très juste. Oui, vous la cernez bien, vous la comprenez bien, votre fille.
Mais oui. Je ne veux pas l'inquiéter, je veux qu'elle fasse sa vie et qu'elle devienne adulte. Et...
Mais qu'est-ce que vous y mettez dans cette inquiétude, vous, au fond ? Selon vous, qu'est-ce qu'elle est ?
Oui. Je ne veux pas, ma fragilité, je ne veux pas l'inquiéter et être un fardeau pour elle.
D'accord. Alors, il y a deux choses. Ça montre que votre côté très protecteur est très maternel. Cette inquiétude, au fond, que vous avez pour votre fille. Et ce désir de ne pas,
je ne veux peser. Pas qu'elle s'inquiète pour ma santé.
Oui, voilà. Vous ne voulez pas peser sur sa vie.
C'est ça.
Et vous avez raison de, il y a des moyens de la rassurer. D'abord, en ne niant pas les choses et en disant que, en mettant des mots, en fait, sur ce que vous avez traversé, toutes les deux, différemment. Et que bien sûr, ça vous a terriblement affecté. Parce qu'il y a eu la mort de vos parents, qui étaient ses grands-parents aussi, elle les a perdus. Pour elle, vous, c'est vos parents, elle, c'est ses grands-parents. Et c'est vrai que pour une jeune fille, puisqu'elle était adolescente au moment
où. Elle était adolescente.
Bon.
Alors. Au décès de ses grands-parents.
Perdre ses grands-parents. Malheureusement, c'est dans l'ordre des choses. Je veux dire par là que, en général, les premiers contacts que l'enfant a avec la mort, alors ça peut être chez les humains, parce qu'il peut y avoir un animal auparavant qui, pour lui aussi, va avoir une charge émotionnelle importante. Mais chez les humains, en général, le premier contact avec la mort, quand tout se passe bien, on va dire, c'est le décès des grands-parents. Mais si ce n'est que là, c'est coup sur coup. Elle perd et son grand-père et sa grand-mère, et quelques années plus tard, son père. Ce qui là n'est pas dans l'ordre des choses. Voyez ? Ça aussi, ça peut fragiliser. Mais dans l'inquiétude, moi, j'entends autre chose. C'est-à-dire qu'il y a votre inquiétude de maman qui montre que vous êtes une maman attentive, aimante et protectrice, désireuse de ne pas peser sur la vie de votre fille. Et c'est bien que vous en ayez conscience. Et vous pouvez lui dire, bien sûr que j'ai été affectée. Par le décès de mes parents, par celui de ton père, et je fais en sorte de tenir debout, de trouver des soutiens, parce que je ne veux pas peser sur toi, et toi tu as ta vie à construire, et tu es là aussi, et elle représente l'avenir, votre fille. Mais il y a une autre inquiétude qui est celle de l'enfant, donc celle de votre fille, et qui n'est pas toujours verbalisée. Parce qu'elle est, j'allais dire inconsciente. Elle est souvent, elle est même consciente, mais il y a presque un effet conjuratoire où l'enfant n'ose pas le formuler. Ça dépend de son âge. Quand on a été confronté à des décès comme ça, et notamment à la perte d'un parent, on a peur pour celui qui reste, malgré soi. Même si on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas frapper une deuxième fois. Mais il y a cette idée en filigrane que pourvu qu'il n'arrive rien à l'autre parent, à celui qui reste, à celui auquel on peut se raccrocher. Vous y avez pensé à cela ?
Oui, vous avez raison.
Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et vous pouvez aussi la rassurer en disant que... malgré les épreuves, vous êtes toujours là. Et vous avez fait en sorte de continuer à tenir debout. Et vous en a fallu de la force et du courage. Donc au lieu de vous culpabiliser, Patricia, ce serait important au contraire de voir que tout ce par quoi vous êtes passé, des épreuves qui en auraient... laminer plus d'un, et plus d'un d'entre nous, ça nous aurait mis à terre. Il n'y a pas d'autre mot, également. Et quand vous parlez de votre fragilité, bah oui, mais qui n'éprouverait pas une fragilité après ce que vous avez traversé ? Vous voyez, c'est pas une fragilité constitutive. Elle ne vous résume pas, cette fragilité, Patricia. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, oui. Je perçois ce que vous voulez dire.
C'est les épreuves, les deuils que vous avez eu à vivre, malheureusement, qui vous ont fragilisé. C'est oui. Pas du tout la même chose.
Ce qui m'a fragilisée aussi, c'est que je me suis retrouvée enceinte après ma fille et j'ai fait une fausse couche au bout de 3 mois de grossesse.
Oui.
Donc, c'était aussi un passage à vide.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, et qui a pu aussi raviver la perte de votre premier bébé. Il y a la mort, hein, dans votre histoire, elle est un peu partout. Alors vous me direz, tu ne l'as pas dit ça, de dire ça. Oui, quand on parle de vie, forcément, on parle aussi de mort. Les deux sont étroitement liés. Même si on a tous tendance à ne pas vouloir y penser, à l'écarter de nos vies. Mais au fond, elle rôde toujours la mort, d'une certaine façon. Il y a d'ailleurs... je vous parle de cela parce que je suis en train de lire un très beau livre de Delphine Horviller. Vous savez, cette femme qui est rabbin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et son livre s'intitule « Vivre avec nos morts ».
Oui.
Et vraiment, je trouve que c'est un livre merveilleux qui pour moi, je le ressens comme cela. Après, il y a un grand pouvoir de consolation dans ce livre, puisque de par, je sais pas d'ailleurs si on dit métier, oui, est-ce que c'est un métier être rabbin ? Vous voyez, j'avoue, je suis un peu, parce que ça s'adresse aussi aux profanes. Enfin, c'est-à-dire qu'on pourrait croire justement, elle est rabbin, enfin qu'on parle beaucoup de religion, pas du tout. Mais elle est, de par sa fonction, je veux dire, de rabbin, elle accompagne les familles endeuillées. Elle retrace les vies de leurs disparus. Et avant tout, elle se dit d'ailleurs que c'est une conteuse parce que avant que la mort passe par là, il y a eu une vie. Et une vie qu'on peut raconter, même si elle a été courte. Et c'est important de redonner de la vie aussi à ceux qui ont disparu. Et c'est vrai que dans ce livre, c'est plusieurs chapitres où il y a des références évidemment théologiques, mais ça s'adresse à nous tous. Il y a un message qui est universel. Parce que, la mort fait partie de nos vies, on a tous perdu des êtres chers. Et il y a, je trouve, dans ses paroles, dans son écriture, qui est très belle, beaucoup d'apaisement. Je vous le dis en passant, mais peut-être que ça pourrait... je vous disais ça parce qu'au moment où
j'ai pris les coordonnées de votre livre et je le lirai certainement.
Oui, j'espère qu'il vous apportera de l'apaisement. Il y a vraiment quelque chose dans le message qu'elle délivre de très universel, je trouve. Mais c'est vrai que dans votre histoire, il y a des moments, évidemment, on la tient à distance, tant qu'on peut, la mort. Et puis il y a des moments, malheureusement, elle s'invite trop souvent, elle frappe. Elle frappe à plusieurs reprises et où on n'a pas le temps de se remettre. Voyez ? Et d'ailleurs, vous me parlez, c'est là, c'est inscrit. Mais il y a aussi votre fille qui est là, qui a 22 ans. Qui commence sa vie de jeune femme, qui vous a à ses côtés, et elle est l'avenir. Elle est aussi votre avenir. Je ne sais pas, elle fait des études ?
Oui, elle fait des études supérieures. Elle est en quatrième année pour devenir ingénieure en alimentation et santé.
D'accord. Oui, dites-moi.
Elle se lance dans ce domaine.
Vous voyez que ça ne l'empêche pas d'investir ses études, de réussir. Quand on a l'esprit parfois trop encombré, qu'on est trop mal, on n'arrive plus à se concentrer, à pouvoir faire des études. Elle réussit bien sur ce plan-là.
Oui, c'est exact. Mais au décès de son papa, elle a quand même... elle a eu des problèmes pour se concentrer pendant ses cours et elle a fait une année supplémentaire.
Oh, mais c'est normal. Enfin, qu'il y ait... Vous savez, déjà, on en parle lors d'une séparation, lors d'un divorce. Et on dit aux parents, les pédopsychiatres disent vraiment, si l'enfant accuse, jusque-là, un enfant qui n'avait pas de problème de scolarité, accuse une baisse des résultats scolaires, surtout laissez-le tranquille. Il faut bien qu'il réagisse à un moment et que quand on a la tête un peu encombrée, pleine de soucis, de questions, mais évidemment, on peut moins se concentrer. Donc, que dans l'année qui a suivi le départ de son papa, que votre fille ait décroché, enfin, oui, oui, bien sûr. Mais bon, elle a rattrapé depuis.
Oui.
Et puis, que vous ayez des discussions houleuses de temps en temps. Vous savez, Patricia, si vous écoutez l'émission, je ne sais pas...
Oui.
Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres mamans qui appellent, et même des pères, pour parler de leur relation avec leurs enfants, adolescents, jeunes adultes. Et des parents qui, sans avoir traversé autant d'épreuves que vous, peuvent avoir des relations à un moment un peu compliquées avec leurs enfants. Vous voyez ?
Oui, je comprends très bien.
Je ne sais pas si vous continuez, vous m'avez dit, la thérapie.
J'ai interrompu ma thérapie il y a 14 mois à peu près.
Pour quelle raison ?
Mais mon médecin psychiatre m'a dit qu'il se tenait à ma disposition au cas où j'aurais besoin de ses conseils.
C'est vous qui avez souhaité l'interrompre ?
Oui.
Parce que vous vous sentiez mieux ?
C'est ça, j'ai fait un an de psychothérapie en 2018 et ça allait mieux.
Oui. Et aujourd'hui, comment allez-vous ?
Ça va relativement bien, je vous remercie. Il y a des hauts, des bas, mais
oui.
Ça va plutôt bien.
Il y a quand même, moi je n'oublie pas vos premiers mots. Est-ce que le fait d'avoir eu des périodes de... Comment
c'est
vous
ça.
M'avez dit d'ailleurs, vous parliez de faiblesse.
Oui.
Oui.
J'avais l'impression, c'est l'impression qu'a eu ma fille, d'être là de corps mais pas d'esprit.
Mais oui, mais c'est très juste.
Je n'étais pas là pour elle.
Oui, oui, mais vos mots en disent long sur votre sentiment de culpabilité. Vous m'avez dit, est-ce que cela s'apparente à de la maltraitance ? Vous rendez compte ? Le poids que vous portez sur vos épaules ? Je pense que là...
Là, ce soir, pour me rassurer.
Ah mais écoutez, j'espère vous rassurer. Vraiment, parce qu'encore une fois, je vous le redis, haut et fort, Patricia, ça n'a rien à voir, vous n'avez pas été une mère maltraitante. Vous avez été une mère en souffrance. C'est tout à fait différent. Et oui, vous étiez un peu absente à vous-même, ce qui est le propre de la dépression. Et vous étiez la première à en souffrir. Alors que ça a eu des répercussions, bien sûr, inévitablement. Mais pour autant, votre fille, et on l'entend dans les questions que vous avez vis-à-vis d'elle, vous avez le souci de votre fille, vous êtes une mère aimante. Donc il faut arrêter de vous en vouloir par rapport à tout ça. Vraiment. On va aller voir du côté de la page Facebook parce que votre témoignage est fort et je pense qu'il interpelle beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui sont parents. Et en tant que parents, ben on a toujours tendance à se remettre en question, à culpabiliser d'avoir fait pas assez ou trop. Enfin, vous voyez, c'est le questionnement de tant de parents. Et j'imagine que ça parle à beaucoup d'entre eux, Paul.
Je voulais vous lire ce grand message du valet de cœur qui résume très bien l'entièreté des messages. Il écrit « Ne vous trompez pas de victime, c'est vous qui avez été maltraité par la vie. Votre soldat intérieur a traversé cette guerre émotionnelle comme il a pu, sans pouvoir être pleinement présente sur tous les fronts. Votre fille n'a pas encore conscience des incidences de votre souffrance. Oui. Soyez plus douce, soyez plus indulgente avec vous-même. Votre fille fera son propre chemin de compréhension par la suite. »
Oui.
Ah ben merci beaucoup.
C'est très joliment écrit, hein, une fois
très,
de plus.
Très très oui. Très très, c'est très très gentil de sa part et c'est très bien exprimé.
Oui, c'est vrai. Il a raison de dire que c'est vous qui avez été très maltraitée, malmenée par la vie. Et il a raison d'ajouter, votre fille, elle a 22 ans. Et à 22 ans, il y a des choses... C'est normal qu'il y ait des moments, il y ait des choses qui sortent, et dans une relation d'une fille à sa mère. Ou c'est bien d'ailleurs qu'elle puisse vous l'exprimer. Je suis en train, en vous le disant, de vous dire, oui, t'étais... Au fond, ce que vous ressentez un peu comme un reproche, ça montre, au fond, qu'elle sent qu'elle peut vous le dire et que vous n'allez pas vous effondrer. Ça veut dire qu'au fond, elle peut, elle aussi, par moments, vous malmener un peu, comme une fille le fait avec sa mère, souvent, et souvent à cet âge-là. Parce que si elle vous sentait si fragile que vous le prétendez, peut-être qu'elle ne se l'autoriserait pas. Vous savez, il y a des parents, il y a des enfants même plus jeunes qui sentent très tôt une fragilité chez leurs parents. Et les rôles s'inversent. Et ils protègent ce parent. Là, votre fille, elle ne vous protège pas. Hein. Elle vous dit, Franco, oui, bah, t'étais là, mais enfin, t'étais quand même absente. Bon. Mais comme une fille le ferait, un reproche à sa mère dans d'autres circonstances. Donc, ça veut dire que vous êtes bien dans votre rôle de mère face à elle et qu'elle peut vous dire par moments ce qu'elle a sur le cœur sans craindre que vous vous effondriez. Et ça, c'est plutôt rassurant.
Tout à fait, oui, c'est positif.
Oui, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous et compter sur vous. Ne l'oubliez pas. Et qu'il faut continuer à vous occuper de vous. Parce que la vie ne vous a pas épargné. Et qu'il faut continuer vraiment à... on le voit à travers tous ces deuils que vous avez endurés, avoir peut-être des moments, comme vous l'a proposé votre psy, où vous pouvez en reparler, même ponctuellement. Merci en tout cas, Patricia, merci. De votre confiance.
Un grand, grand merci à vous et à toute votre équipe. Je vous écoute régulièrement et ça fait du bien.
Merci. On va se quitter sur ces mots-là, alors, Patricia. Je vous embrasse.
Merci, moi aussi.
Au revoir.
Je vous embrasse.
Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche.
Parlons-nous.